Erdet.net, Richard van der.
Le 30 mars 2010, nous avons eu la chance de nous entretenir avec Jean Lacouture, chez lui, où il était interrogé par Yves Chenal, d'Hérodote.net.
Jean Lacouture, merci d'accepter de répondre aux questions d'Hérodote.net. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est à quoi est-ce que vous rêviez enfant ? Est-ce que vous étiez fasciné par les héros ? Est-ce que ça remonte à votre enfance ?
Absolument. Je crois qu'on ne pourrait pas me définir mieux qu'un type qui a été, dès sa petite enfance, fasciné par les héros, les personnages d'exception. Et il se trouve que j'avais une mère qui était passionnée d'histoire, et qui, quoique bien occupée par l'éducation de ses 5 enfants, était quand même très attachée à la lecture de livres qui étaient généralement des biographies. Son auteur favori était Jacques Bainville, Napoléon et beaucoup d'autres livres. Et j'ai été en effet élevé dans cet esprit de la passion de Bonaparte, d'Henri IV, de Richelieu, des hommes d'exception. Je me suis beaucoup intéressé. J'avais un très beau livre illustré chez moi sur la Grande Armée et les maréchaux de la Grande Armée. Et, chose pas très intéressante, mais j'étais capable de vous dire où étaient nés, quand et où avaient conquis leur titre la plupart des maréchaux de la Grande Armée, ce qui en soi n'a pas grand intérêt, mais enfin, c'est en tout cas comme ça que j'ai été élevé, que j'ai pris l'éducation qui m'a été donnée, qui était, j'étais élevé chez les jésuites, où l'histoire était assez bien traitée en général, mieux en tout cas que beaucoup d'autres sujets, notamment les scientifiques, et dans un milieu familial qui était très orienté vers le culte des grands personnages.
Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous partez en Indochine, et c'est là que vous rencontrez vos premiers héros, si je ne me trompe.
Oui, oui. C'est-à-dire que je veux dire que mon premier héros vécu a été le général puis maréchal Leclerc, qui était vraiment pendant la guerre dans ma famille. On écoutait volontiers Radio Londres, et parmi tous ces personnages qui n'étaient pas négligeables, moi je m'étais fait un héros en particulier, le général Leclerc. Et à la fin de la guerre, où j'avais été tardivement dans un petit maquis, j'ai rejoint, au lendemain de la libération de Paris, je suis venu m'inscrire à Saint-Germain à la 2e division blindée du général Leclerc. Et là, nous avons 2 ou 3 fois été passés en revue par Leclerc. Nous avons pu voir, non pas nous entretenir avec lui, un brigadier chef comme moi ne s'entretient pas avec le général en chef, mais enfin, il y avait une relation humaine. Et quand j'ai appris que Leclerc était désigné par de Gaulle pour commander le corps expéditionnaire en Indochine, je me suis précipité être avec Leclerc, sur les traces de Leclerc. En plus, on a demandé des volontaires pour être au service de presse du général Leclerc. Je me suis naturellement, j'ai levé la main, l'occasion d'être plus près de mon héros, et il se trouve que de fait j'ai pu 2 ou 3 fois l'approcher, avoir un question-réponse très bref, mais enfin j'ai eu l'occasion d'approcher en tout cas le héros de mes 20 ans, mieux que les héros de mes 10 ou 15 ans.
Et c'est aussi à partir de ce moment-là que vous comprenez que le temps des colonies est révolu. Et cette certitude a beaucoup marqué par la suite vos prises de position politique. Et on peut dire que la décolonisation est un des thèmes majeurs de votre œuvre et de vos œuvres.
Je pense qu'on pourrait me définir comme ça, comme un type qui a suivi avec passion la décolonisation, dont j'ai pensé très vite qu'elle était une nécessité, que je n'étais pas et je ne suis toujours pas un anticolonialiste idéologique. Je considère que, quelle que soit la formule qu'on emploie, la période coloniale a eu sa richesse, a eu ses apports, et avec certains de mes amis asiatiques ou africains, je m'en suis entretenu très sereinement, et ils n'étaient pas plus que moi pressés de dire que la France n'avait pas construit d'hôpitaux ou n'avait pas créé des codes civils ici ou là. Bon, donc je ne suis pas un anticolonialiste de idéologique, mais tel qu'était le monde au lendemain de la guerre, telle qu'était la France, ce qui lui restait comme force et notamment comme flotte, j'ai pensé, avec certains de mes camarades, mes amis, que le temps des colonies était passé. Je n'en avais pas honte. Bon, j'avais honte de certaines choses que nous avions faites, mais en métropole, il y avait aussi beaucoup de choses dont j'avais honte. Mais j'ai pensé que l'histoire suivait son cours et que l'histoire de la deuxième partie du XXe siècle ne comporterait pas de colonies ou en tout cas serait marquée par la liquidation ou la sortie du système colonial le moins méchant, le moins cruel, le moins violent possible, quoi. Dans certains cas, ça a été possible. Dans d'autres, comme l'Algérie, ça ne l'a pas été.
Oui. Est-ce que donc, et vous semblez dire que oui, vous avez tout de suite conscience, immédiatement conscience des importances des événements que vous vivez pendant que vous les vivez, ou est-ce après coup que vous en comprenez la signification?
Non, je crois que, vous savez, il était difficile de ne pas avoir conscience de l'importance des choses que l'on vivait ou de leur signification quand on était au Vietnam et qu'on avait, comme j'ai eu l'occasion de rencontrer Ho Chi Minh, Giap, les dirigeants donc, du camp d'en face, on s'apercevait qu'on était mêlé à des choses très importantes. Et quand on a été, comme moi, le témoin des premiers accords de Hanoï entre Ho Chi Minh et le général Leclerc et Jean Saint-Denis, on a bien vu quelque chose de... C'était quand même considérable, quoi. Là, à partir de ce moment-là, le Vietnam n'était plus une colonie, mais un membre de l'Union française, un État, membre de l'Union française. On ne savait pas trop bien ce qu'était l'Union française, elle était en train de se créer, mais on savait qu'on vivait, ouvrez les guillemets, des moments historiques, quoi, des moments où l'histoire bouge ou change, quoi. Bon, il n'y a pas de lieu d'en avoir une particulière fierté, mais en tout cas, on se dit, tiens, j'ai de la chance, c'est plutôt ça. Même si mon pays était un peu retréci, je pense que, en l'occurrence, il se conduisait bien et que nous n'étions pas plus petits d'avoir un peu moins de territoire à contrôler.
Et inversement, c'est une question un peu anecdotique, est-ce qu'il y a des événements ou des personnages dont vous avez pensé qu'ils changeraient le monde, ou dont vous avez pensé qu'ils étaient en train de changer le monde, et dont finalement, après coup, vous vous êtes dit, mais finalement, c'était pas si important que ça?
Je ne dirais pas cela. Pas si important, c'est-à-dire quel était le jugement que je portais. Vous savez, je suis méridional, j'ai le sang chaud, j'ai tendance à exalter un peu ce que je vis. Peut-être qu'après coup, j'ai fait des réserves en me disant, bon, nous avons eu des illusions. Non, c'est vrai que nous avons eu des illusions. C'est vrai que la décolonisation que nous voyons au départ se démarrer dans de bonnes et saines conditions a tourné mal ensuite. J'ai fait beaucoup d'erreurs d'appréciation ou de pronostic. Mais quand même, ce qui m'a paru important dès le premier instant est resté important, même s'il a tourné de façon différente de celle que j'avais prévue. Que la le règlement indochinois que je voyais se dérouler sous mes yeux en 1946 fut devenu la guerre d'Indochine. C'était désolant, de mon point de vue, mais ce n'en restait pas moins très important. La guerre d'Indochine étant assez considérable et ayant joué un rôle dans l'histoire de notre pays, avant celle d'Algérie.
Par la suite, vous écrivez vos premiers ouvrages avec votre femme, l'Égypte en mouvement en 1956 et le Maroc à l'épreuve en 1958. Et dans les deux cas, vous prenez parti très nettement, comme dans vos articles. Et cette manière de vous engager, c'est vraiment une de vos caractéristiques, c'est-à-dire que vous revendiquez toujours votre subjectivité.
Je ne sais pas ne pas prendre parti. Vous savez, je suis à la télévision, je vois un match de tennis entre une joueuse du Venezuela et une joueuse de Biélorussie, je prends parti dans les premières secondes. Et il y en a une que je préfère, ou la qualité du jeu, ou la rondeur de ses hanches, je ne sais pas quoi. En tout cas, mais là, je caricature. Mais j'ai toujours, toute ma vie, à tout instant, pris parti pour, s'il y a demain une guerre entre l'Uruguay et le Paraguay, Bon, là, dans l'instant où je suis, je ne sais pas qui a raison ou tort, mais dès que j'aurai les premiers éléments, je prendrai parti pour l'un ou pour l'autre. Je considère que l'objectivité est un mot parfaitement absurde, n'est-ce pas, et la neutralité sont des mots absurdes. Nous sommes devant tout événement devant lequel nous nous trouvons, un accident de voiture, une brutalité dans la rue, un discours prononcé par le président de la Confédération helvétique, nous prenons immédiatement, tu vois, j'ai une opinion, je me fais une opinion tout de suite. Elle est quelquefois erronée, elle est un certain nombre de fois erronée, mais en tout cas, je ne sais pas ce que c'est que d'assister d'une façon neutre et de façon à quelque événement que ce soit. Surtout si mon pays y est concerné.
Et en 1961 paraît votre premier ouvrage biographique, « Cinq hommes et la France », et encore, il s'agit plutôt de portraits que d'une biographie, donc de cinq portraits. Vous aviez alors 40 ans, et donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, vous n'avez pas toujours été biographe. J'ai tendance à penser que Jean Lacouture aurait toujours été biographe. Finalement, c'est même une vocation assez tardive, on peut dire. Et est-ce que, à votre avis, il faut une certaine expérience de la vie pour être un bon biographe?
Probablement un peu davantage que d'être un bon journaliste. Je pense qu'un bon journaliste, il faut quand même avoir un minimum de culture, mais on peut l'avoir à 25 ou 30 ans. Je pense que le bon journaliste qui saisit une situation, qui en saisit les significations et qui est apte à la raconter, ça ne nécessite pas tellement de culture ou d'expérience de la vie. Je pense qu'une biographie, en effet, implique une certaine connaissance de la vie. Je pense que je ne vois pas bien un biographe de 20 ans. Je vois très bien un très bon journaliste à 20 ans ou un peu plus tard. Mais il me semble que le métier et l'art de la biographie implique un certain retour en arrière, certaines prises de distance, une certaine expérience. Oui, je pense que biographe n'est pas un métier d'adolescent. C'est un métier je crois qu'il est difficile de le pratiquer avant une trentaine d'années. Mais il peut y avoir des cas. Quelqu'un qui a vécu aux côtés d'un personnage d'exception peut très tôt prendre des notes, écrire un bon livre, encore jeune. Mais enfin, la biographie me paraît appeler un certain recul, une certaine pondération dans le jugement. Voilà.
Et par la suite, vous revenez assez souvent sur des personnages que vous avez déjà décrits, souvent pour développer des portraits en biographie de plein droit, souvent aussi pour nuancer vos jugements, et il me semble que ces retours, ou ces ressassements, mais sans connotation péjorative évidemment, sont une autre de vos caractéristiques. Donc est-ce que cette façon de tourner autour, de revenir sur un personnage, sont un moyen pour vous de vous approcher de la vérité?
Oui, parce que les jugements que j'ai portés sont souvent, si j'emploie le mot hâtif, c'est peut-être un peu trop péjoratif, mais rapide en tout cas, j'ai souvent porté des jugements rapides, et ce qui m'a conduit à me tromper assez souvent sur tel événement, sur tel personnage. Il est certain, j'ai assez peu révisé les jugements que je portais sur Ho Chi Minh, par exemple, parce que il s'est avéré un homme à l'intérieur de son idéologie, de la stratégie du communisme, qui n'a jamais été de loin la mienne, on pourrait dire un sage, quoi. Mais d'autres ont manifesté quelque chose qui avait beaucoup d'éclat, et par exemple, le cas d'Abdel Nasser, pour moi, est un cas assez typique. Je l'ai vu prenant un pays à genoux, l'Égypte, en 1952, l'Égypte farouquienne. C'était vraiment pas brillant. Coup d'État, on peut discuter naturellement la procédure, bien entendu. Mais je vois, lui, un groupe d'hommes qui s'acharnent à rénover un pays, à le corriger, à le moderniser. C'était une entreprise assez impressionnante, et la plupart des témoins de cette période ont été d'accord. Bon. Alors, il y a eu le cas personnel d'Abdel Nasser, la saisie d'un pouvoir qui était un pouvoir absolu, on peut même dire à la limite totalitaire, l'opération du canal de Suez, qui est une opération évidemment brutale et très critiquable. L'ensemble fait quand même que j'ai été admiratif du personnage de Nasser. J'ai écrit des choses sur lui d'abord assez longtemps positives. Je me suis progressivement révisé mon jugement, et j'ai écrit, à quelque temps après sa mort, une biographie qui est, je crois, assez équilibré, qui est plus positive ou favorable que celle de l'opinion française en général, qui était, elle, très négative et très abusivement négative. Mais enfin, je pense que les personnages, quand vous les saisissez au cours de la carrière, naturellement, vous pouvez être très admiratif de tel moment et ne plus l'être si vous écrivez une biographie du maréchal Pétain en 1919 ou 20, il y a beaucoup de chances qu'elle soit très positive. Si vous l'écrivez 22 ans plus tard, il y a pas mal de chances qu'elle soit beaucoup plus négative. Alors, naturellement, les carrières appellent des révisions, et si on se mêle d'écrire pendant la carrière, on a beaucoup de chances de faire des erreurs, ce qui m'est arrivé assez souvent.
Oui. C'est pas un jugement, évidemment. En matière politique aussi, vous n'hésitez pas à reconnaître vos torts. À propos du communisme, par exemple, vous êtes toujours très ouvert vis-à-vis de ce que vous avez dit.
Oui. Le communisme, vous savez, j'ai loué des communistes comme Ho Chi Minh, par exemple. Pas beaucoup d'autres, hein, vraiment. J'ai révisé mon point de vue. Serait-ce que parce que, même si je continue à garder à Ho Chi Minh de l'admiration pour l'homme qu'il est, c'est vrai qu'il a été le jouet d'une stratégie stalinienne, si on veut, qui était en soi, qui était tout à fait répréhensible, impérialiste. Il y a eu un impérialisme communiste. Ho Chi Minh a d'abord été l'homme d'une libération de son peuple, mais il est devenu ensuite l'instrument d'un impérialisme, celui des soviétiques. Et en cela, il est tout à fait répréhensible, et je l'ai fait, j'ai corrigé au fur et à mesure. Je n'ai pas de gêne à me corriger, je pense que j'ai une formation de journaliste, j'ai écrit très vite, très immédiatement, j'ai plus ou moins créé le concept d'histoire immédiate, et j'ai dirigé une collection qui portait ce titre, et c'est vrai que l'immédiateté n'est pas le propre de l'histoire. L'histoire demande un certain recul, et quand je me suis reculé, chaque fois je me suis aperçu que mes jugements étaient vraiment hâtifs, soit en bien, soit en mal. Plus souvent en bien.
Et justement, puisqu'on on en est à parler de l'histoire, quelle différence faites-vous entre votre travail de biographe et le travail d'historien, puisque vous avez dirigé aussi une collection qui s'appelle « L'histoire immédiate ». Quelle différence voyez-vous entre ces deux travaux ?
Je ne pense pas qu'il y ait de différence. C'est-à-dire que, après tout, des écrivains, M. Thiers a écrit une histoire de la Révolution française en 30 ans après les événements, ou 35 ans. C'était quasiment de l'histoire immédiate et ça tient assez bien le coup. L'histoire de la commune de Lissagaray était écrite sur l'événement et les bons historiens professionnels s'y rapportent. Thucydide écrivait au moment où se passaient les événements. Thucydide est plutôt un immense journaliste plutôt qu'un grand historien. Le temps, je n'ai pas à dire que le temps ne fait rien à l'affaire. Le temps fait dans la mesure où il implique naturellement des erreurs. Je viens de citer des noms de grands historiens, mais dont les œuvres, au fur et à mesure, ont dû être corrigées ou révisées. Mais la procédure historique peut commencer très vite, à condition d'être retouchée ou révisée. Et ce que peut-être qualifié d'histoire dans mon travail a été déjà et sera largement révisé, que ce soit ma biographie du général de Gaulle ou d'autres, bien entendu. Mais après tout, il y a maintenant 20, près de 20 ans que j'ai écrit ma biographie de Gaulle. Bon, je ne vois pas beaucoup qu'on ait fait beaucoup de retouches. Je ne veux pas me grandir par là, hein. Mais je m'aperçois qu'après tout, assez proche de l'événement, on peut aussi, écrivant proche de l'événement, on a l'avantage de parler avec les témoins, sinon avec des acteurs, de pouvoir écrire une biographie du général de Gaulle en parlant à quelques-uns de ses plus proches collaborateurs ou de ses plus proches adversaires ou des plus implacables. C'est aussi un avantage. Il faut garder la tête froide pour autant qu'on le puisse, mais la proximité fait que ça ne peut pas être vraiment de l'histoire. C'est peut-être trop près, mais ça a quand même aussi des avantages. Le fait quand même d'avoir vu le général de Gaulle sur le forum d'Alger un certain jour de 1958, c'est quand même que ça peut s'appeler un avantage. Et ça comporte des inconvénients, c'est vrai. Il faut, alors les avantages qu'on a de la proximité, il faut être capable de les réviser au fur et à mesure et de supporter que vos héritiers, après, le corrigent ça encore un peu plus brutalement.
Et en même temps, se focaliser sur la biographie comme genre littéraire, comme vous le faites, implique aussi une certaine attitude face à l'histoire. C'est l'idée ça implique de considérer que ce sont les grands personnages qui font l'histoire contre une tradition marxiste.
Ce qui est naturellement tout à fait contestable, mais c'est là-dessus en effet que j'ai fondé mon travail historique. Nous avons commencé notre entretien par le culte du héros que j'avais étant enfant ou adolescent, qui ne m'a jamais quitté, qui fait qu'en effet de l'histoire que je rêvais d'écrire. Je ne suis pas un véritable historien, je suis licencié en histoire, j'ai fait des études historiques, mais enfin, par rapport à plusieurs de mes camarades qui sont grands historiens professionnels, comme Pierre Nora ou Jeanne Ney, je ne suis pas évidemment un véritable historien. Mais il y a des choses que j'ai écrites qui servent à l'histoire, qui peuvent être incorporées à la procédure historique en général. Mais c'est vrai que je n'ai cessé de mettre l'accent sur les personnages par rapport aux collectivités et aux idéologies, contrairement à ce qui se faisait de mon temps, quoi. Maintenant, on est un peu revenu sur... On revient un petit peu aux personnages, c'est vrai, mais dans les années 30, 40, 50, surtout 50, il n'y en avait que pour l'histoire des idées, l'histoire de la longue durée, l'histoire du climat, par telle ou telle, l'histoire du commerce transatlantique, enfin bon, c'est toujours si on osait prononcer le, le nom de Vasco de Gama ou de Christophe Colomb. Maintenant, on a restitué le message dans l'histoire, c'est vrai. Moi, c'est d'une certaine façon plus ou moins caricatural, j'en conviens, mais je ne me suis jamais posé en historien. J'ai écrit des livres qui, dans leurs meilleurs moments, font partie de l'histoire. Voilà. Et certains de mes amis ou de mes... J'ai obtenu des prix, le grand prix de l'histoire de l'Académie française. Bon, ça vaut, je pense que c'est plutôt un bon signe, quoi. C'est-à-dire, mais je n'en fais pas... Je ne me considère quand même pas comme un historien professionnel. Je me considère comme un bon amateur.
Pour revenir à votre carrière, en 1965, vous publiez un livre sur De Gaulle qui est assez critique. Mais c'est en 1973, avec André Malraux, Une vie dans le siècle, que vous vous tournez vraiment vers les grands personnages français. Puis, en 1984, paraît le premier des trois volumes de votre grande biographie de De Gaulle, que vous venez de citer. Alors aujourd'hui, évidemment, on voit que c'est une œuvre monumentale dans le paysage historique français. Est-ce que vous imaginiez l'ampleur que ça allait prendre lorsque vous êtes lancé dans cette entreprise ?
Je savais qu'elle était pour moi démesurée et je me suis fait pousser en avant par mon éditeur qui m'a quasiment mis au défi et que ne pas le faire, c'était une sorte de lâcheté. Mais comment vous prétendez un biographe important de cette époque et vous n'osez pas aborder le principal, le personnage le plus intéressant de l'époque qui est De Gaulle. Allons, il y a de la lâcheté de ne pas le faire. Bon, je me suis lancé, je dis, mais il faudra au moins 2 volumes. Puis au bout de 6 mois, tout penaud, je suis arrivé en disant, je ne pourrais pas faire à moins de 3 volumes. Là. L'éditeur a trouvé ça un peu beaucoup, 3 volumes. Mais enfin, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Le sujet était, si on voulait le traiter bien avec tous les documents. Je suis arrivé à un moment culminant parce qu'il y avait beaucoup de documents. Et puis, la plupart des témoins, des acteurs étaient encore là, n'est-ce pas ? Donc, mes successeurs ont, si je puis dire, l'avantage d'être débarrassés de beaucoup de témoins, n'est-ce pas ? Alors, ils ont, c'est vrai, ils travaillent davantage sur les correspondances, sur les documents diplomatiques, etc. Bon, le sujet reste immense. Je l'ai traité d'une façon qui n'est pas la mienne. Je l'ai traité presque d'une façon exhaustive, alors que moi, je suis plutôt un rapide. Je vois les choses, je porte des jugements rapides. Et là, j'ai approfondi, et ça donne un travail qui tient assez bien le coup. Quoi. Maintenant, il y aura mieux, certainement, bien entendu. Mais enfin, pour le moment, je vois que c'est le livre auquel, sur De Gaulle, on se réfère le plus souvent. Quoi.
Alors, avant ces volumes sur De Gaulle, vous avez publié en 1977 un Léon Blum, et si je ne me trompe, c'est le premier personnage que vous n'ayez pas connu personnellement. Par la suite, vous avez traité de personnages beaucoup plus anciens, Montaigne, Montesquieu ou Champollion. Et qu'est-ce que cela change dans votre rapport au sujet, de traiter de personnages beaucoup plus anciens ?
Ça change extraordinairement peu. Parce que quand vous écrivez sur Montaigne, vous avez affaire aux montaignistes. Et les montaignistes sont beaucoup plus exigeants à l'égard de ce que vous écrirez sur Montaigne que Montaigne lui-même. Je suis sûr que Montaigne aurait lu avec plus de bienveillance. J'ai l'air de dire que les montaignistes, comme les montesquistes après, ont été sévères. Pas du tout, ils ont été très généreux, ils m'ont très bien accueilli, et ils ont bien accueilli mon livre, qui est un livre d'amateur, bien entendu. Bordelais, ça rend un petit service, mais enfin, quand même, d'amateur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que travailler sur un vivant ou travailler sur un mort, même sur un mort ancien, les entourages ou les spécialistes sont tellement passionnés, tellement compétents, que vous avez l'impression de travailler. Je vous assure, l'enquête sur Montaigne, j'ai vu une dizaine de montaignistes qui étaient, j'ai l'impression qu'ils vivaient avec le, avec le monsieur, avec Michel, quoi. Que c'était vraiment. Quand j'écris sur. On avait fait allusion au fait que j'avais écrit sur Blum. Quand j'écrivais sur Blum, j'étais entouré par ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux, ses compagnons de route, comme Daniel Meyer. Alors, naturellement, c'est ne pas avoir contacté le personnage, c'est. Il y a quelque chose qui manque. Mais, vous savez, souvent le personnage se renferme, se réduit, et se juge en droit de ne pas répondre aux questions, puisqu'il l'a vécu, il peut ne pas répondre aux questions. Les entourages sont souvent plus bavards. Et. Je pense que dans certains cas, enfin, l'entourage est plus prolifique et plus bénéfique et plus fructueux que le personnage lui-même.
À propos de Blum aussi, vous écrivez que vous avez décidé de faire sa biographie un peu comme une sorte d'expiation face à la... Je ne dirais pas la haine, mais à tous les reproches qu'on a pu lui adresser dans votre milieu d'origine.
J'appartiens à la bourgeoisie catholique bordelaise qui n'a pas accueilli avec plaisir la victoire du Front populaire en 1936. J'avais 15 ans à l'époque, mais j'ai un souvenir relativement précis. Et c'est vrai que dans ma famille, on n'était pas antisémite. La dimension juive de Blum... n'a pas joué, mais il était socialiste, et ça, c'était mal vu dans ma famille. On était bourgeois, la bourgeoisie catholique de Bordeaux, dont le député de la circonscription était Philippe Henriot. C'était évidemment pas un milieu très progressiste. Et le Front populaire a été très mal accueilli, et Léon Blum, avec son côté esthète, était mal jugé dans ma famille. En écrivant sur lui un livre qui, dès l'origine, j'ai voulu positif, je n'ai pas eu à me forcer, parce que j'admire vraiment beaucoup Léon Blum. Pour moi, c'est un modèle humain. Mais j'ai eu un peu le sentiment, en effet, de corriger les erreurs de ma famille, qui étaient de bonnes gens. Vraiment, il n'y avait pas de haine chez eux, mais il y avait l'hostilité de classe, quoi, l'hostilité de classe, oui, tout simplement. Et ça, j'ai un peu réparé.
Et donc, est-ce qu'on peut dire que certaines de vos biographies sont des tombeaux, en fait, comme on a en musique des tombeaux adressés pour un défunt ?
Tombeau dans le sens de l'hommage posthume. Oui, peut-être que mes biographies sont positives, c'est-à-dire qu'elles voient plus longuement et plus clairement le côté positif que le côté négatif des personnages. C'est valable pour tous. Pour De Gaulle, c'est peut-être avec De Gaulle que j'aurais été le plus, ouvrez les guillemets, objectif, fermez les guillemets. Mais même on s'aperçoit au fur et à mesure du livre que je suis quand même conquis par mon personnage et que c'est quand même un livre qui est un livre pour, quoi. J'aurais pu être plus réticent, étant donné le milieu politique auquel j'appartiens. Certains de mes amis politiques m'ont trouvé un peu trop favorable au général. Je ne regrette absolument rien. J'ai rien à retirer de ce que j'ai écrit, ni en bien ni en mal. C'est plus ou moins bien fait, plus ou moins bien dit, plus ou moins bien composé. Mais la tonalité générale. J'y reste fidèle. Le seul livre de mes livres sur lequel j'aurais à redire un peu, c'est celui de Mendès France, parce que c'est un livre qui est un livre d'admirateur. C'est un livre où il y a peu de critiques. Mendès est un homme que j'aime particulièrement, que j'admire beaucoup, sur lequel il n'y a pas beaucoup de critiques à faire, d'ailleurs. Mais il n'y en a quand même pas tout à fait assez, si on peut dire pas tout à fait assez. Et ne serait-ce que sur cette donnée fondamentale qui est que quand on fait de la politique, on en accepte les règles qui sont dans laquelle le cynisme entre, n'est-ce pas ? Sans vouloir être exactement machiavélien, il faut faire sa part à Machiavel, quoi. quitte à le nuancer par, par Saint-François de Sales ou le, je ne sais pas quel grand héros pur de la Bible, mais c'est le livre que j'aurais, mais je ne le retoucherai pas, même si on le demandait, je ne le retoucherai pas, je préfère être partial et faire donc critiquable en tant qu'historien par rapport à Permanès France. C'est un homme auquel je suis fidèle et je sens bien que mon livre est un peu, mériterait quelques réserves supplémentaires, mais je ne les ferai pas, bien entendu. Non, dans l'ensemble, je pense que mes livres sont plutôt des livres pour que des livres contre. Mais enfin, dans le Mitterrand, il manque la partie Bousquet est beaucoup trop faible et je n'insiste pas assez sur le crime qui a consisté à, de la part du chef de l'État français, élu par les Français, à continuer de voir un homme aussi obscène que Bousquet. Je pense qu'il devait, jeune homme, ministre, éventuellement rencontrer ce type qui lui avait rendu des services, enfin des services vitaux. Il a probablement empêché l'arrestation de tel ou tel moment de Mitterrand. À partir du moment où il est l'élu du peuple français, il ne doit pas, c'est une question de morale publique, rencontrer un individu pareil. Et il le fait, je pense que là, je ne l'ai pas assez dit. J'ai eu des rendez-vous tout à fait à la fin de la vie de François Mitterrand, jusque dans son, sur son lit de mort, à 10 jours avant sa mort. J'ai encore vu là. Chaque fois, je me disais, il faut que tu lui demandes quand même, il faut que tu lui parles de Bousquet. Chaque fois, je me dégonflais. Je n'osais pas, devant cet homme malade et souffrant, poser une question qui était pourtant, qui relevait de mon métier, de mon devoir, que je n'ai pas rempli.
Donc vous n'auriez pas rédigé une biographie d'un personnage que vous n'admiriez pas ?
Ah non, je ne le fais pas. Ça ne me passerait pas par la tête. D'écrire une biographie de Chirac, je n'ai rien contre. C'est un brave type, Chirac. Il ne m'intéresse pas, je ne le ferai pas, quoi, simplement. Je crois que quelqu'un me l'a proposé un jour. Oui. Je n'ai pas eu de mal à refuser. Non, mais il faut vraiment que j'aie quelque chose de fort, compte tenu de son rôle dans l'histoire, ou du rôle, ou de la connaissance que j'en ai eue personnellement pour m'attaquer à un personnage. Pour Mitterrand, j'ai hésité pas mal, parce que j'avais quand même beaucoup de réserves à faire. Je me suis lancé, je crois que j'ai eu raison. Il y a des retouches à faire à mon livre, mais dans l'ensemble, il est à peu près équilibré.
Bien, venons-en maintenant à quelques questions sur la façon dont vous composez vos textes. Comment est-ce que vous procédez pour écrire une biographie ?
Je prends ma plume et je prends l'un de ces petits blocs, un de ces blocs que vous voyez là. Non, je commence par faire de la documentation. Les 7 ou 8 bouquins indispensables. J'écris un certain nombre de lettres. Si j'avais à écrire la biographie de, je ne sais pas, Jacques Delors, mettons, ça m'est passé par la tête, j'ai pensé. Il m'a vivement déconseillé de le faire. Mais bon, je me dis, alors, demain matin, j'ai Jacques Delors. Alors, je lis, je prends les 3 ou 4 bouquins, dont ses mémoires, qui sont nécessaires. Bon, mais là, c'est un peu truqué, parce que je le connais assez bien, ça m'est très facile, je lui téléphone, et je lui dis, bon, on prend rendez-vous. Et, bon, en tout cas, ça, c'est exclu. Mais je fais de la documentation, mais je ne m'alourdis pas sur la documentation pendant bien longtemps. Je passe très vite à l'écriture, quitte à faire des cocottes en papier avec après. Mais j'alterne la documentation, lecture et écriture. Je veux me mettre assez vite dans la rédaction. Je trouve que la rédaction appelle la lecture, appelle la documentation. Je n'accumule pas la documentation et dans 6 mois, je me commence à écrire. Non. Je fais de la docu, puis j'écris, puis je continue. J'alterne l'un et l'autre. Ça dépend aussi, pour certains livres, j'ai fait ma documentation moi-même, pratiquement. Dans d'autres, De Gaulle, par exemple, j'ai eu une documentaliste, comme mon éditeur a mis à ma disposition. Vous avez droit, pour un sujet aussi énorme, à une documentaliste. Je l'ai citée, elle était charmante, elle est morte maintenant. C'est une jeune femme, jeune historienne très sympathique, avec qui j'ai travaillé. Mais enfin, en général, là, pour le livre que j'écris actuellement, la biographie de Paul Flamand, l'éditeur du Seuil, j'ai ma fille, Dominique, qui a été employée dans la maison, qui connaît bien la maison, travaille à ma documentation, mais enfin, elle m'a réuni un certain nombre de bouquins. Mais à vrai dire, c'est un livre comme sur Flamand, on n'a rien écrit, il n'y a pas un livre encore, il y a des articles, mais même pas beaucoup. J'ai simplement là ces mémoires inédites et d'ailleurs impubliables qui sont une source formidable que j'ai lu d'abord, puis sur laquelle je travaille, au fur et à mesure. Mais enfin, j'ai toujours alterné documentation et rédaction. Ça, c'est un principe de sagesse de vie. Si j'accumule trop grosse documentation, je suis épouvanté et quitte à me dire. Pas possible. Qu'est-ce que je vais tirer de cette masse ? Non, j'alterne.
Et est-ce que vous vivez pendant cette période avec vos héros et en quel sens ? Et question subsidiaire, est-ce que vous exaspérez votre femme, par exemple, en parlant de ce héros ?
Quand j'ai dit à ma femme que j'avais fini par accepter du Seuil d'écrire le De Gaulle, De Gaulle, elle a levé les bras au ciel, elle l'a écrit de son côté, dans ce cas. En disant, on va vivre pendant 5 ans avec ce général. Toute la journée, on va avoir. Tu la connais pas, celle de De Gaulle, mais moi, je l'ai. Tu sais, à Clermont-Ferrand, il racontait ceci ou cela, ou à tel endroit. Et c'est vrai que pendant les 4 ans que m'a pris la rédaction du De Gaulle, 4 ans, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans la famille du général De Gaulle, les gens qui venaient. Alors, sur votre De Gaulle, vous savez, j'en ai une que vous ne connaissez pas, ou peut-être vous ne la connaissez. Enfin bon, c'était une obsession, c'est vrai. Et moi, je n'y voyais que. Je trouve De Gaulle un personnage très savoureux, donc ça m'amusait beaucoup. Et ma femme trouvait ça beaucoup, mais enfin. Elle s'est résignée.
Et. Vous avez déjà parlé du travail préparatoire, mais j'ai très rarement trouvé de précision sur la rédaction en elle-même. Alors que Jean Lacouture, si vous me le permettez, c'est avant tout peut-être un style. On vous sent très marqué par les grands auteurs. Ça va de Montaigne à André Mauroy ou à Bernanos. Donc, comment est-ce que vous qualifieriez votre style ? Comment est-ce que vous faites pour vraiment rédiger concrètement ?
Écoutez, vous avez lancé de grands noms. Moi, j'ai conscience que j'écris agréablement. Depuis le temps qu'on me le dit, qu'on publie mes articles, c'est agréable. J'ai de là une certaine facilité d'écriture et je sais me faire lire. Bon, ça, pour un journaliste, c'est la moindre des choses. Mais pour quelqu'un qui aime la littérature aussi, c'est naturel. Vous n'avez pas cité Mauriac, qui dans mon cas est assez important, parce que c'est vraiment le maître de la littérature politico-journalistique. Il va au-delà, mais il a, je pense que son bloc-notes est le chef-d'œuvre de la littérature du journalisme français. Et ça, il a eu certainement de l'influence sur moi. Mais, vous savez, je n'ai pas tellement conscience de me référer à qui que ce soit. J'écris assez facilement. J'ai été formé dans le journalisme, dans la sensation, dans l'émotion, dans la nécessité de faire revivre ce que j'ai vécu. Ma formation est journalistique. Et donc, je suis un journaliste qui est capable d'écrire de longs articles assez soigneusement composés. C'est comme ça qu'on pourrait, me semble-t-il, me définir.
Et quels sont vos projets actuels? Vous avez parlé de ce projet sur Paul Flamand.
J'écris ce livre sur Paul Flamand. Pour le moment, il faut que je le finisse. J'aurai fini dans un mois, je pense. Et après, je n'ai pas de projet précis. J'ai à retravailler, comme c'est le 40e anniversaire de la... Non, combien le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin. On refait une nouvelle édition de mon De Gaulle. Il va falloir que je retravaille un petit peu. Ça fait partie de mes projets. Autrement, j'ai en tête comme ça. Je m'étais mis en tête. J'aimerais beaucoup écrire une biographie d'Apollinaire, qui est un écrivain que j'aime beaucoup. Mais je me suis aperçu que, j'en voyais ça ce matin, là, il y a cinq biographies d'Apollinaire déjà, et c'est parce que je peux apporter de nouveau, comme je ne suis quand même pas un expert en poésie, en écriture poétique, je ne suis pas un spécialiste ni du surréalisme, ni de ce qui en a découlé, ça fait partie des... chose qui pourrait arriver, mais pour le moment, quand j'en aurai fini avec mon cher Paul Flamand, je ne sais pas trop comment je dirigerai mes pas.
Alors, donc, question subsidiaire, je dirais, est-ce que parmi tous ces attentats politiques, on peut en isoler un dont l'écho aurait été plus grand que les autres sur l'histoire du monde, qui aurait encore plus profondément que les autres marqué l'histoire du monde?
Je ne pourrais pas dire un, je dirais deux. Il y en a deux dont la disparition a été, me semble-t-il, historiquement décisive, c'est John Kennedy et Yitzhak Rabin. Je crois, pour Rabin, c'est très simple, c'est-à-dire que l'assassinat de Rabin a coupé court au processus politique vers la paix, et on s'aperçoit que chaque jour qui passe éloigne davantage la paix. Maintenant, il y a eu une chance historique que nous avons cru possible. Il est bien possible que dans l'esprit de beaucoup de Palestiniens et de beaucoup d'Israéliens, c'était pas vrai, c'était une illusion que nous nous faisions. Mais en tout cas, nous avions l'illusion que voilà, la paix était au bout de la démarche de Rabin, et sa mort qui a été, si on peut dire, sur la gâchette, on pressait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. En tout cas, était l'interruption du processus de paix, peut-être pas définitif, mais pour très longtemps. Et pour John Kennedy, c'est encore plus important dans la mesure où tout ce qui se passe aux États-Unis est plus important que partout ailleurs. Mais je crois que la mort de Kennedy a prolongé la guerre du Vietnam de 13 ans. Je crois que Kennedy allait vers je ne sais quel règlement, mais qu'il allait vers... Il avait commencé à comprendre que la guerre du Vietnam ne menait à rien, que c'était le tonneau des Danaïdes, qu'on mettait des centaines et des centaines, tous les soldats, les jeunes Américains qu'on envoyait au Vietnam, ne feraient pas que tôt ou tard la révolution vietnamienne, entre guillemets, l'emporterait avec... Les assises chinoises et russes qu'elle avait, les Vietnamiens gagneraient tôt ou tard. Je crois que John Kennedy avait commencé à le comprendre. Je cite dans mon livre des phrases de lui qui sont très claires en ce sens-là, et je crois que la liquidation de John Kennedy a prolongé la guerre du Vietnam sous Lyndon Johnson, puis sous Nixon, pendant 63 à 75, ça fait 12 ou 13 ans, et peut-être que ça a joué un grand rôle sur l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire sur l'histoire du monde. Oui, je crois que ça a joué beaucoup. Ces longues années de guerre, là, ont pesé beaucoup sur la conduite des États-Unis, c'est-à-dire du monde.
Jean Lacouture, nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé votre temps pour cette interview et pour les lecteurs de Hérodote.net. Merci.
Bien. Je vous en prie.